5, 4, 3, 2, 8 et top.
L'Auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Eh oui, on lance ça en force, l'Auberge espagnole de ce mardi 19 mars 2013. Démarrera avec un entretien avec Marie-Christine Chaz, présidente de Languedoc Roussillon Livres et Lectures, pour parler d'une série de formations organisées à destination de tous les acteurs, auteurs, éditeurs, libraires et j'en passe, du monde du livre. Et puis on recevra ensuite Lucas et Yumi de l'association L'Ouvre-Tête qui organise la 7e semaine de l'environnement du 23 au 30 mars 2013 sur le campus, une édition de transition. Pour l'instant, ben on va ouvrir le livre de premier livre de cette auberge espagnole avec Jaga Jazzist et leur Book of Glass.
Thank you.
Languedoc-Roussillon Livre et Lecture organise tout au long de l'année des formations à destination de tous les acteurs du monde du livre. Entretien avec Marie-Christine Chaz, présidente. Marie-Christine Chaz, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la présidente de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, une structure née en 2007, issue de la volonté des professionnels du livre, de l'État et de la région Languedoc-Roussillon de créer un réseau d'échanges professionnels au service de la création et de la diffusion du livre. Une présidence à laquelle vous avez été nommée en mai 2010, confirmée en décembre 2010. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez œuvré depuis de nombreuses années au développement de la culture en région. Tout d'abord à travers l'éducation nationale, puisque vous étiez directrice d'école maternelle, en ayant impulsé des actions pour l'enseignement artistique des élèves dès le plus jeune âge, en étant responsable d'un mouvement de recherche pédagogique au sein du rectorat et de l'Académie de Montpellier. Vous avez mis en place pendant plus de 20 ans des ateliers autour de la citoyenneté et de la veille démocratique dans les collèges et lycées. Vous avez été élue à la culture à la communauté d'agglomération de Montpellier pendant 7 ans. Vous n'avez eu de cesse de privilégier dans votre carrière l'accès au plus grand nombre à la culture, le croisement des disciplines artistiques, les actions innovantes, notamment le pass multimédia dans les médiathèques, le développement des services éducatifs dans les équipements culturels avec des conventions avec l'éducation nationale et d'autres partenaires. Donc on comprend bien que vous êtes une femme de conviction, que votre palmarès plutôt excellent vous a peut-être aussi valu d'être chevalier de la Légion d'honneur. Cette implication dans cette direction de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, j'imagine que en ces temps où on dit souvent qu'il y a un problème avec le papier, que l'arrivée d'Internet, des supports numériques, etc., finalement, s'occuper du livre en Languedoc-Roussillon pour toutes ces activités, c'est quand même un pari aujourd'hui, puisque il est entre guillemets menacé par la révolution numérique.
Certes, le livre est menacé par la révolution numérique, mais nous sommes là justement pour accompagner au plus près les professionnels. Et surtout, ce qui nous importe, c'est de fédérer tous ces acteurs autour du livre, malgré cette évolution qui bouscule pas mal les choses, et notamment l'économie du livre. Alors, c'est pour cela que nous accompagnons, donc, comme je vous le disais, tous ces professionnels dans la formation continue, parce qu'il y a une adaptation obligatoire et obligée à ce nouveau challenge qui est le numérique.
C'est la raison pour laquelle on vous reçoit. Dans l'actualité, il y a le programme de formation 2013 pour les professionnels du livre et de l'édition en région. 4 formations pour les auteurs, 3 formations pour les éditeurs, 2 pour les libraires, 8 formations sur 7 journées d'études pour les bibliothécaires, 3 formations pour les professionnels du patrimoine, 7 formations interprofessionnelles. À Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, il y a aussi cette volonté de proposer des formations propres et puis aussi de servir évidemment de trait d'union avec toutes les carrières des métiers de l'édition qui existe et dont le guide ONICEP en Languedoc-Roussillon est un outil aussi fort utile.
Alors d'abord, les formations pour les professionnels et l'interprofessionnalité, elle est issue de la concertation avec les professionnels et comme je vous le disais, elle répond à tous les besoins et demandes de nos acteurs de la chaîne du livre. En ce qui concerne le guide de l'ONICEP, c'est un partenariat que nous avons eu avec l'ONICEP suite à la création du master Les métiers du livre à l'université Paul Valéry. Et c'est un guide vraiment qui, me semble-t-il, est simple dans la lecture, parce que ce sont essentiellement des témoignages de professionnels. Et puis, il y a toutes les adresses utiles qui peuvent servir, bien sûr, à nos jeunes lycéens, aux étudiants et aux professionnels du livre. Et les conseillers d'orientation, bien sûr.
Pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore dans leurs études, en secondaire, à l'université ou peu importe, on souligne quand même que le fait, depuis la révolution Internet, on a souvent dit le numérique c'est la fin de l'écrit, etc. Sauf que 95% des contenus sur Internet c'est de l'écrit. Donc finalement, il y a plus de débouchés que peut-être les plus jeunes d'entre nous se l'imaginent.
Peut-être pour les plus jeunes, mais il y a des générations qui ne sont pas tout à fait aptes à s'adapter pour l'instant au numérique. Mmh. Alors, ça modifie pas mal de choses. Alors, au niveau de l'écriture, pour les droits d'auteur, peut-être qu'il y a certaines modifications et une vigilance à avoir. Par contre, les pratiques de lecture sont totalement différentes. On ne tourne plus les pages, on fait glisser, on bouge son doigt. Il n'y a plus du tout ce contact charnel avec le livre et ça... Les pratiques de lecture sont modifiées et, comme je vous disais, les générations plus anciennes ont plus de mal, quoique il y a un certain pourcentage qui s'adapte à ces nouvelles lectures.
Ces formations vont se dérouler tout au long de l'année, pratiquement, qu'elles soient à destination des éditeurs, des libraires, des auteurs aussi, souvent sous un format d'une journée ou d'une demi-journée, à travers entre guillemets, des cours magistraux.
Non, bon, y a des experts qui viennent, bien sûr, nous faisons appel à des organismes de formation spécifiques, bien sûr, mais c'est sous forme d'une journée, d'une demi-journée, et bien sûr, il y a l'apport technique d'experts, et il y a des échanges, bien sûr, pour que chacun puisse approfondir sa formation.
Des formations qui sont à destination des auteurs, alors des auteurs dramatiques pour l'écriture théâtrale, qui abordent aussi les points importants d'un contrat d'édition, comment déclarer fiscalement les revenus artistiques, des informations sur les dispositifs de formation professionnelle avec l'AFDAS. La réalité du métier d'auteur, c'est aussi arriver à joindre les deux bouts, parce que ça prend du temps d'écrire un livre, ça prend du temps de le faire connaître et de le faire vendre, et puis après ça prend du temps aussi d'entretenir le lien avec les lecteurs aussi.
D'abord de l'éditer, de trouver un éditeur, et puis bien sûr la diffusion de ce livre-là. Et nous organisons aussi, nous avons créé une charte avec des professionnels du livre, la charte des manifestations littéraires, nous avons, qui est un cadre législatif et qui donne des règles par rapport à ces manifestations, une identification aussi pour toutes les manifestations littéraires dans la région. Mais en même temps, nous avons essayé d'être attentifs à la rémunération des auteurs, qui sont un petit peu malmenés parfois et pas autant considérés que ce qu'ils souhaiteraient et que nous souhaiterions.
Alors ils sont malmenés, ils l'ont été par le passé, parfois par leurs propres éditeurs. Chaque auteur doit aussi être informé, compétent, vigilant sur des questions qui sont juridiques et qui sont souvent loin des préoccupations de celui qui écrit.
Alors là, à l'échelle régionale, bien sûr, nous essayons toujours d'être dans une situation de veille par rapport justement à la protection de tous ces acteurs de la chaîne du livre et notamment des auteurs. Il y a aussi une fédération interrégionale du livre et de la lecture auquel nous sommes adhérents et qui permet aussi d'être vigilant au niveau national.
Des formations aussi à destination des éditeurs, que ce soit pour éditer des livres numériques grâce au logiciel ebook.lr, développer une activité à l'international, se référencer sur les bases de données professionnelles.
Les éditeurs sont identifiés en région Languedoc-Roussillon. Nous avons édité un annuaire l'année dernière et actuellement nous avons 102 éditeurs dans la région du Languedoc-Roussillon. Donc n'importe qui ne peut pas être éditeur, même micro-éditeur.
Oui,
ou moins identifié comme tel.
Et puis, ces formations sont là justement pour donner des éléments d'avancée et de performance aussi pour ces métiers qui sont en pleine mutation. Les libraires aussi, alors à Montpellier, on est plutôt bien servi puisqu'on a la librairie Sorams qui est un petit peu un fer de lance au niveau national des libraires indépendants et qui arrive à encore le rester tout en étant de taille respectable.
Alors Sorams, c'est une grande librairie, hein. C'est vraiment une référence et régionale et nationale, mais nous avons aussi des petites librairies indépendantes que nous avons essayé de valoriser l'année dernière à travers une exposition chez Mon Libraire, ce n'est pas plus cher. Son
Absolument.
Conseil est important, mais il est indépendant. Et donc, nous avons essayé de valoriser toutes ces librairies. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un problème pour la vente du livre numérique. Comment s'adapter? Que faire pour un libraire, un petit libraire aussi? Il nous semble important. Alors, le livre numérique, c'est immatérialisé. Hein, et pour nous, le libraire, c'est un conseiller, c'est un expert, un passeur de texte. Et comment créer cette relation dans la vente du livre numérique? Alors peut-être qu'elle va exister, mais encore faut-il arriver à un changement de mentalité, une adaptation à cette nouvelle ère du numérique.
Voilà, puis peut-être pour faire une petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que quand on achète un livre papier, il nous appartient, le papier, le livre nous appartient en propre, et puis on peut le prêter, on peut le donner à quelqu'un, on peut le léguer à ses enfants, et c'est vrai qu'à travers le modèle des Kindle et des livres numériques, les éditeurs ont tendance à essayer de faire en sorte qu'on paye l'usage, et c'est vrai que là, il y a quand même beaucoup de tensions entre ce modèle économique de faire payer à chaque lecture, plutôt que d'acheter un livre, et puis c'est le mien.
Bien sûr. Et imaginez le livre dédicacé, il n'existera plus. Et le livre dédicacé, c'est bien un livre unique.
Puis le bilan carbone d'une tablette Kindle est quand même assez mauvais par rapport à un exemplaire papier.
Oui, tout à fait. Mais j'aime à citer cette phrase de Robert Darton, cet Américain. C'est imprimé sur du papier ou conservé dans des serveurs, les livres incarnent le savoir et leur autorité découle de bien d'autres choses que de la technologie de leur fabrication. Mais bien sûr, il existe le livre papier avec ce contact avec le libraire et puis ce livre virtuel, numérique, immatériel, qu'on ne pourra peut-être pas dédicacer. Qui sait, peut-être dans une dizaine d'années, il y aura la dédicace sur le numérique.
Je ne sais pas, je crois que le papier, lui, a encore de beaux jours devant lui. Les bibliothécaires, évidemment, sont aussi bien servis par ces journées de formation. Avec, dans le cadre du mois du film documentaire, il y aura déjà un premier rendez-vous le 4 avril. Le parcours Bib de la Comédie du Livre, le catalogue au défi du web, les ressources numériques en bibliothèque, les évolutions des catalogues, évolution des bibliothèques, ce qui change concrètement avec l'arrivée de RDA, les bibliothèques innovantes à l'étranger, les ateliers pratico-pratiques de l'ABF et puis des journées d'études proposées par les bibliothèques départementales de près de la région auront lieu régulièrement à partir du 5 avril jusqu'au 6 décembre. Le patrimoine aussi est concerné, notamment avec une intervention qui aura lieu le 20 mars sur le conditionnement des documents en vue de leur numérisation. Là aussi, c'est un nouveau marché qui s'ouvre.
Dernièrement, nous avons remis officiellement les fichiers numérisés de la presse ancienne régionale de la région Languedoc-Roussillon, donc, qui a été opéré par Languedoc-Roussillon Livre Lecture dans le cadre du pôle associé Languedoc-Roussillon en partenariat avec la BNF et l'État. Il y a plus de 600 000 pages sous 70 titres ont été numérisés. Et cette numérisation de la presse régionale ancienne va être sur le site de la région d'ici peu, je pense.
En accès libre.
En accès libre.
Voilà, ce qui est un petit peu la finalité de toutes ces numérisations.
Accès libre, gratuit et qui va toucher le lecteur lambda. Alors que cette presse ancienne s'adressait plutôt à un lectorat de littrés.
Marie-Christine Chage, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on rappelle que c'est LR2L, les chiffres en chiffres, les lettres en lettres, pour retrouver tout ça sur Internet.
Je vous remercie.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Et au revoir. C'était Marie-Christine Chaz, présidente de Languedoc-Roussillon, livre et lecture. À présent, on est en compagnie de plusieurs membres de l'association Louvre-Tête qui organise la 7e semaine de l'environnement. C'est du 23 au 30 mars 2013. Lucas, Clémence et Isa sont avec nous. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, c'est une édition qui est une édition de transition, un mot à la mode. Alors que vous en soyez un partisan ou une partisane zélée ou un ennemi acharné, c'est l'occasion de venir partager et défendre son avis sur la question et sur bien d'autres du 23 au 30 mars sur la pelouse de l'UM2 à Montpellier et en divers points de la ville. Une édition de transition aussi, peut-être au niveau de l'organisation de cette semaine de l'environnement 7e du nom.
Oui, alors la semaine de l'environnement, il faut savoir que c'est un événement qui est porté par l'association Louvre-Tête depuis 7 ans déjà. Donc l'association Louvre-Tête, c'est une association qui est composée d'étudiants d'un peu tous les campus de l'université qui se situe elle-même sur l'université Montpellier 2. Et donc ça fait effectivement, c'est la 7e édition de cette semaine de l'environnement. Donc de plus en plus, on s'est dit qu'on allait aller vers quelque chose d'un peu plus petit après les années précédentes qui avaient été extrêmement lourdes en termes d'organisation, en termes de budget. Cette année, on a décidé de réduire un petit peu la taille de l'événement et puis peut-être que on va parler tout à l'heure des petites difficultés administratives qu'on a eues avec les différentes administrations et qui du coup nous ont aussi mené vers ce chemin-là. Et donc rapidement, sinon l'association Louvre-Tête, c'est une association qui a été fondée en 2006 à la suite des mouvements sociaux contre le CPE par des étudiants. Et donc à partir de ce moment-là, on a décidé d'organiser la semaine de l'environnement qui existait aussi dans d'autres villes de France au même moment. Et donc cette association Louvre-Tête, c'est pas que la semaine de l'environnement, c'est des bénévoles, des étudiants, des non-étudiants qui toute l'année sont engagés sur une grande diversité de projets. Ça va de l'alimentation étudiante, proposer des AMAP sur les campus, proposer des épiceries, proposer une alimentation alternative dans les restos universitaires, mais aussi des bibliothèques, des mardis culturels, toutes sortes d'animations qui sont portées exclusivement par des bénévoles sur des subventions publiques. Donc je pense que pour ce qui est de l'association Louvre-Tête, une petite présentation était nécessaire.
Absolument, absolument. Alors vous avez un peu réduit la voilure cette année, mais on pourrait pas trop s'en rendre compte parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pendant cette semaine. On va dire pour se mettre en bouche, ça démarrera notamment ce samedi 23 à 18h au Calage, rue des Mazes à Montpellier, avec le vernissage de l'exposition Prisonnier de vos armures, avec un apéro bio local et de saison à prix libre, en contemplant les dessins directement venus de Notre-Dame-des-Landes, au lieu aussi du militantisme et du mouvement citoyen.
Oui, et je pense que là, vous avez aussi oublié un petit peu que ça va commencer samedi matin. Et ça commence notamment par l'inauguration d'un jardin éphémère aux Cévennes, avec des bénévoles de l'association Ouvre-Tête qui s'occupe de l'éducation à l'environnement et avec l'association Lapieux qui, elle, s'occupe de l'éducation à l'environnement en milieu urbain. Donc c'est à partir de 10h samedi matin pour effectivement se terminer samedi soir au Calage, parce que nous n'avons pas oublié la ZAD, bien entendu, et nous avons une belle collection de photos qu'il faut absolument venir voir et aussi en discuter. Nous serons là tous ensemble samedi soir.
Voilà, et puis pour revenir sur le matin, c'est à la Maison pour tous Fanfan Guilherme que ça se passera à partir de 10h du matin, de 10h à midi, des ateliers de fabrication de bacs à fleurs et légumes avec les habitants, un repas tiré du sac à midi, musique et procession jusqu'au cœur du quartier de 13 à 14h. Ça c'est donc dans le cadre de cette journée d'inauguration de l'association Le Jardin des Cévennes. Un atelier de permaculture aura lieu à 14h avec une visite guidée, ça sera sur inscription. Alors pour s'inscrire, sde2013@ouvretete.l'autre.net, il le redit le garçon, sde2013@ouvretete.l'autre.net. Et puis l'après-midi, il y aura des visites de lieux alternatifs de Montpellier qui se rejoindront donc tous au Calage ce samedi 23.
Et puis
je ne suis pas démenti, vous avez vu un peu?
Non, non,
je n'ai pas fait une erreur. Trop fort les garçons.
Je crois qu'on va l'embaucher pour la com, non, pour la prochaine SDA.
trop cher. Ça se poursuit dimanche 24 avec un forum associatif. Là, ce sera en partenariat avec la librairie Scrupule, où plein d'associations vont être présentes pendant toute la journée pour être visibles et communiquer auprès des citoyens, des populations.
Voilà, ce forum associatif, il a lieu à Plan-Cabane, donc un peu au croisement entre le centre-ville et puis les quartiers extérieurs de la ville. Pour nous, c'était important d'avoir un endroit qui permettait vraiment de toucher une population qui n'est pas forcément, sinon, consciente de toutes ces problématiques, qui ne participe pas forcément aux réflexions qu'on a, nous, sur l'ensemble de l'année, sur toutes ces problématiques des alternatives écologiques et sociales. Donc sur le forum des associations, on essaye de proposer, de mettre en valeur un maximum le tissu associatif de la ville de Montpellier. Ce sont toutes sortes d'associations, de collectifs qui sont investis dans les alternatives, que ça soit dans l'environnement urbain, dans l'environnement extra-urbain, que ça soit la lutte contre l'exploitation du gaz de schiste ou la lutte contre le nucléaire civil. Donc voilà, une grande diversité d'associations sur toutes ces thématiques, des ateliers qui vont être proposés aussi, et puis comme toujours, pour que l'ambiance soit au top, une restauration à prix libre, bio local, préparée par l'association, le collectif avec qui on est en partenariat pour l'ensemble de la nourriture proposée pendant la semaine. C'est le collectif Caravanola qui du coup s'occupe de nous faire la nourriture pendant toute la semaine à partir de producteurs dont on a sélectionné soigneusement l'origine pour vous, et donc toute cette journée du forum avec toutes sortes d'animations, de débats, de concerts et de fables, de contes.
Et de musique. Et je rajouterais que ce forum associatif, il est co-organisé avec la librairie Scrupule qui est basée dans Figrol, donc tout près de la place Plan-Cabane où on fait le forum. Et ça, c'est aussi une manière de montrer qu'on travaille avec tout le tissu associatif local. On s'attache à ce que... Enfin, disons que la plupart des animations sont co-organisées avec d'autres associations. Et pour ça, nous, c'est important de recroiser les capacités et le travail de chacun tout au long de l'année, de mettre en valeur aussi tout ce qu'ils font et de s'appuyer aussi sur leurs compétences.
Voilà, lessive populaire, bourse d'échange de semences, atelier de production de semences paysannes, animation menée par les éclaireurs de France, nom de là. Nuts pour l'upcycling, que font-ils là? Starting Block, le réseau Grapp et la Fibala, un joyeux micmac qui se poursuivra aussi avec du théâtre de rue à 15h avec les mauvaises herbes. Ça, ce sera donc place du Plan-Cabane. Et puis lundi 25, il y aura un rendez-vous à 18h30, un rendez-vous pas poli puisque ce sera un repas insolent, un repas autour d'un peu de géopolitique, c'est ça?
Oui, absolument. Donc le repas insolent, c'est un concept, c'est un jeu collaboratif ou coopératif, hein, selon les préférences de chacun. C'est un jeu, donc c'est sur inscription, hein, parce que tout le monde ne peut pas participer à des jeux comme ça. Et c'est pour mettre en valeur toutes les inégalités qui existent dans le monde. C'est une application un peu de ce qui se passe en vrai dans le monde à l'échelle d'un repas, repas insolent, où on en ressort avec les idées un petit peu plus claires sur ces thématiques-là.
Voilà, toujours sur inscription à sde2013@ouvretete.l'autre.net, sans apostrophe, l'autre. Et puis, ce sera donc à 18h30, ça se passe à Super Gros Montpellier, place Pierre Vallat, arrêt Pierre Vallat, ou bus numéro 16, pour ceux qui prennent le bus. À 19h30, il y aura une projection débat à l'UM2 sur la grande pelouse autour du film de l'association Diversité Paysanne, Paysans des temps modernes à la rencontre des diversités paysannes, suivi évidemment d'un débat avec notamment Sébastien Passarieux, qui est-il ?
Sébastien Passarieux est un étudiant de Supagro qui, avec son ami, sont partis quelques mois l'année dernière pendant l'année de césure, qui propose aux étudiants de Supagro faire le tour des paysans, donc sud de la France et une partie de l'Afrique, pour mettre en valeur les différentes pratiques, etc. Et ça rentre un peu dans le thème de la transition via ces pratiques agricoles qui sont mises en place, etc. Qui sera là pour nous en parler.
Et puis le soir, toujours ce lundi 25, ce sera Michi Bichi pour un concert jazz blues un peu déjanté. Yé Mystic Creek, orchestre créole de 9 musiciens. Donc ce sera au Mojomatic, non loin de chez nous. Mardi 26, il y aura journée Troc des Savoirs, animation d'éducation à l'environnement de 12 à 16 heures, un pique-nique aux alentours de midi, une déambulation souriante, place de la Comédie, rendez-vous à 16 heures. Et puis une projection débat sur transition en pays aventure lotoise en présence de la réalisatrice Lou Jomier, suivi d'un débat, et puis ça se poursuit tout au long de la semaine. On n'aura peut-être pas le temps d'évoquer tous les rendez-vous, mais il y aura des ateliers de yoga, des fables du pistil. Si vous voulez en savoir plus, eh bien rendez-vous sur le site ouvre-tête.fr où on peut retrouver ce magnifique programme très très recyclable avec des abeilles, des couleurs pastel et des textures amusantes, tout ce qu'il faut pour passer une bonne semaine de l'environnement finalement.
Oui, alors effectivement, on a l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour participer à ce super événement qui a lieu depuis plusieurs années. C'est un peu, je dirais, l'événement phare de la vie associative montpelliéraine, en tout cas en termes de public. Je pense que depuis plusieurs années, on est un des événements qui touche un des plus larges publics. Donc pour nous, c'est important de maintenir cette dynamique-là, de rester justement en lien avec tout ce tissu associatif, de rester indépendant au niveau de l'organisation. Et c'est là que cette année, on se heurte un petit peu, comme tous les ans, mais cette année particulièrement, à des problématiques qui sont celles rencontrées par toutes les associations et tous les collectifs de la ville de Montpellier. Ces problématiques, c'est une diminution drastique des subventions, c'est une diminution drastique des accords pour l'occupation de l'espace public. Et donc finalement, nous, on a envie que cette semaine, la réflexion, la thématique de cette semaine, c'est la transition. Mais pour nous, la thématique de cette semaine, c'est aussi la réflexion sur la possibilité d'une véritable vie associative dans la ville de Montpellier, une vie associative engagée, une vie associative qui n'est pas juste à la botte des pouvoirs publics, qui se veut aussi contestataire et qui, pour autant, a quand même besoin du soutien des administrations, d'être accompagnée. Et là, je pense surtout aux associations étudiantes comme l'Ouvre-Tête et comme il y en a d'autres sur les campus, parce que c'est des associations qui subissent forcément un fort roulement au niveau des bénévoles qui y travaillent et donc qui ont besoin d'être soutenus, parce que c'est des associations qui finalement sont formatrices pour les étudiants aussi, leur apprennent ce que c'est la politique locale, leur apprennent ce que c'est la vie associative et les initiatives associatives. Donc voilà, nous, ce qu'on demande, c'est plus d'accompagnement de la part des administrations, plus d'aide, et pas seulement une aide financière, mais aussi une aide logistique qui pourrait et qui devrait, à notre avis, nous être apportée par les associations au vu de l'ensemble des projets qui sont organisés par ces associations sur les campus et sur la ville, au vu de l'impact positif qu'ont ces différents projets. Voilà. Nous, c'est clairement ça qu'on demande, cette réflexion sur la semaine.
Et alors, dans le concret, on a été freinés. La conséquence, c'est que la soirée de clôture qui devait avoir lieu sur la fac de sciences est annulée. Il y a autre chose qui va se passer, et en amont de ça, on donne rendez-vous à un maximum de gens qui sont intéressés par ces problématiques-là, qu'ils soient citoyens, associations, collectifs, à venir discuter de ça en assemblée populaire et festive à 17h, vendredi 29, sur le campus de Triolet à l'UM2, sur la Grande Pelouse.
Eh bien, c'est noté, et espérons que le message soit passé dans les oreilles de nos édiles. On rappelle que c'est sur www.ouvre-tête.fr qu'on retrouve tous les détails de cette 7e semaine de l'environnement. C'est du 23 au 30 mars 2013. Lucas, Clémence, Isa, merci. Et à très bientôt sur les ondes de Divergence.